vos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Dans ce récit de la vie de Néhémie et le retour de captivité d'une partie du peuple pour reconstruire les murailles de Jérusalem et sous Esdras, préparées pour la construction du temple. Il se dégage de ce récit des leçons spirituelles, des principes de vie concernant notre préparation spirituelle et notre participation active à l'œuvre du Seigneur. Nous rappelons bien des paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous œuvrons ensemble avec lui. » C'est lui qui nous a appelés à cela. Et c'est lui qui nous a habilités et nous a donné les capacités de le servir au sein de son Église qu'il a lui-même bâtie. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » Et c'est une œuvre que Dieu lui-même avait arrêtée avant la fondation du monde et affirmée lors de son incarnation. Mais dans cette œuvre à laquelle notre Dieu nous appelle en tant qu'ouvriers avec lui, on découvre plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de succès sans sueur. Deuxièmement, il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Il n'y a pas de victoire sans vigilance. Il n'y a pas de croissance sans combat. Je pourrais juste prendre ces phrases-là et faire tout un message sur ces phrases-là, mais c'est en fait le résumé du chapitre premier. Mais chaque fois que le peuple de Dieu se lève et déclare « Nous, ses serviteurs », c'est le verset clé de Néhémie 2:20, « Nous, ses serviteurs », nous nous lèverons et nous bâtirons. Et juste avant, Néhémie affirme, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et bien sûr, chaque fois que le peuple de Dieu se lève pour agir, nous nous lèverons et nous bâtirons. L'adversaire de nos âmes se lève pour nous attaquer, pour s'opposer. Et dans ce livre de Néhémie, nous avons le récit de la vie d'un homme, un serviteur choisi par Dieu, à qui Dieu adresse un appel particulier. Néhémie, alors il présentait un CV impressionnant, échanson du roi, donc dans la confidence de l'homme le plus puissant du monde. Une sécurité de l'emploi, tant que personne ne cherchait à empoisonner son maître. Au service du roi, dans sa cour, tout le réseau bien établi avec les grands et les puissants de l'Empire perse. Et la lecture du chapitre 1er fait ressortir les qualités spirituelles suivantes, des qualités requises pour entrer au service du roi des rois. D'abord, le serviteur de Dieu doit se soucier des difficultés et des problèmes des autres. Il doit posséder une forte conviction concernant le caractère de Dieu. Il doit avoir une habitude de confesser ses péchés régulièrement. Il doit placer son entière confiance dans les promesses de Dieu. Et il doit être disponible pour s'engager, être prêt à s'impliquer dans ce que Dieu lui demande de faire. Mais bien sûr, un serviteur, une servante du Seigneur ne s'appuie pas sur son CV, même s'il est bardé de diplômes. Lorsque le temps est venu pour bâtir, il y a une préparation spirituelle. Il y a des outils spirituels qu'il faut manier avec adresse pour accomplir les tâches que Dieu a préparées pour chacun. nous qui sommes enrôlés à son service. La réponse de Néhémie à l'appel de Dieu pour conduire les travaux de la reconstruction des murailles et des portes de Jérusalem, c'est deux symboles du salut et de la gloire de Dieu pour qu'il soit restauré, s'apparente à celle du prophète Ésaïe, qui lui, quand il entend la voix du Seigneur, qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je réponds « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Et c'est ce texte même que Dieu a utilisé dans ma vie personnelle il y a maintenant plus de 55 ans. Il a voulu susciter dans mon cœur ce désir d'accomplir sa volonté pour ma vie. Il y a quelque temps ici, après un culte à Chambossy, un jeune garçon de 10 ans m'avait posé la question suivante. « Roger, est-ce que c'est difficile de devenir pasteur ?» Et je sais où il avait la suite dans les idées, ce garçon, hein, parce qu'il y songeait déjà. Et la première chose qui m'avait traversé l'esprit a été la pensée suivante. « Ah, mon gars, non seulement c'est difficile de s'y préparer, de le devenir, c'est encore plus difficile de le rester. » Mais je ne lui ai pas dit ça. Parce que c'est la parole du Seigneur qui m'est venue à l'esprit. 1 Timothée 3. « Si quelqu'un aspire à la charge de berger enseignant, il désire une œuvre excellente. C'est une noble ambition. » Ça a été ma réponse à ce garçon. Et je prie pour lui. Je lui dis, être pasteur, c'est une belle vocation, mais aussi noble, aussi excellente soit-elle. C'est une tâche très, très ardue, avec de multiples facettes. Cependant, si Dieu t'appelle à ça, il t'accordera tout ce qui est nécessaire pour l'accomplir, puisque c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et de plus, c'est difficile parce que les attentes des autres pour un serviteur de Dieu sont énormes. Écoutez ceci. Un bon pasteur. Un bon pasteur devrait avoir la force du bœuf et la ténacité du bulldog. L'audace du lion et la sagesse de l'hibou. L'inoffensivité de la colombe et l'industrie du castor. La douceur d'une brebis et la variété du camélion. La vision de l'aigle et la peau du rhinocéros. La perspective de la girafe et la disposition d'un ange. L'endurance du chameau et le rebondissement du kangourou. Le ventre du cheval et la loyauté d'un apôtre. La fidélité d'un prophète ainsi que la tendresse d'un berger. La ferveur d'un évangéliste et le dévouement d'une mère. Et après tout ça, on ne saurait être satisfait de lui. Chers frères et sœurs, la parole nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 12 d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ainsi, l'exhortation est de ne pas entretenir des attentes excessives ni déraisonnables à l'encontre des anciens. Et Dieu voulant, dans quelques semaines, votre nouveau conducteur spirituel. Au contraire, ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, à cause de leur œuvre. 1 Thessaloniciens 5, 13. Dans ce chapitre 2 de Néhémie, nous voyons que nous, en tant que serviteurs et servantes du Seigneur, suscités par lui pour une tâche particulière à son service, nous avons 5 outils à notre disposition pour nous atteler à 5 tâches que Dieu nous confie. Et on va les parcourir ensemble ce matin. Première chose, il faut porter le fardeau dans la prière. Que nous dit le verset premier ? Chapitre 2. Vous l'avez trouvé ? Que faisait Néhémie pendant tout ce temps de préparation ? Il priait. Il priait. En homme d'action, comme au chapitre 1er, verset 11, où il avait prié, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Et donc, il a simplement attendu patiemment sur le Seigneur pour une réponse favorable à sa requête. Et pratiquement 4 mois d'attente, si vous comparez les premiers versets de chaque chapitre, les 2 premiers chapitres. Ainsi, le Seigneur nous exhorte à faire de même. Imitez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis, Hébreux 6, 12. Et Néhémie, lui, montre que non seulement il peut verser des larmes et prier sur la situation désastreuse à Jérusalem, les portes brûlées, les murs en ruine. Il peut prier, il peut attendre. Et s'il y a une leçon que nous devons tirer de cela, c'est que l'attente n'est pas du temps perdu dans le plan de Dieu. L'attente n'est pas du temps perdu dans le plan de Dieu, parce que c'est une préparation spirituelle dans l'œuvre du Seigneur, dans notre vie, dans notre service pour lui. Et ça, c'est un outil qu'il nous faut souvent employer. Deuxième chose, il faut être confiant. Au mois de Nissan, la 20e année du roi, Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'étais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Donc le second outil, c'est la confiance. Et Néhémie avait le visage triste. Lorsque le roi lui demande la raison de cela, il est saisi de cette crainte. D'abord parce qu'un sujet du roi ne doit jamais apparaître triste en la présence du roi. Ensuite, il était sur le point de demander au roi de révoquer un décret concernant la reconstruction de Jérusalem établi des années auparavant. Mais la confiance de Néhémie était plus grande que sa crainte. Et il avait confiance en la puissance de Dieu qui agit pour accomplir ses promesses. Et puis, avec la sagesse que Dieu lui donne, il donne cette explication pour l'abattement de son cœur. Et je répondis au roi, verset 3, que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu ? Alors, notez bien, il ne mentionne pas le nom de Jérusalem, qui aurait peut-être suscité beaucoup de considération politique, mais il opte pour l'approche personnelle. La ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et les portes ont été dévorées par le feu. Les pères eux-mêmes honoraient également leur mort. Et la crainte de Néhémie aurait pu l'inciter à être plus timide, mais il utilise cet outil de la confiance avec une grande efficacité. Et lorsque le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu donc ?» Et là, Néhémie est déjà en prière. Je priais le Dieu des cieux. « Au fait, Qu'est-ce que tu veux ? Mais avant de répondre, il prie le Seigneur. Ça doit être une prière assez courte, mais ça intervient entre la question posée et la réponse donnée. Mais sa prière était renforcée par les 4 mois qui ont précédé. 4 mois d'intercession intensif. Moi, ça m'encourage beaucoup, pas vous ? Parfois, on a l'impression de prier, 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 rien ne se passe. Et pourtant, Dieu a un plan. Dieu a une échéance qu'il a préparée d'avance. Nous, on aimerait bien que ce soit tout de suite, bien sûr. On est dans cette culture aujourd'hui où il faut que tout aille plus en plus vite. Mais sa prière était renforcée par cette attente confiante. Et nous pouvons, bien sûr, prier à tout instant, en toutes circonstances, pour toutes choses. Et devant toutes les décisions qui se présentent à nous, dans notre vie de service pour Dieu, dans notre vie tout court, notre vie professionnelle, vie de famille, nous pouvons nous en remettre à Dieu. Parce que lui, il sait comment nous guider. Il sait où nous conduire. Il accorde sa sagesse. Et si nous en manquons, nous n'avons qu'à lui demander. Il donne à tous libéralement. Mais cela exige donc cette préparation spirituelle, le maintien de cette communion intime avec le Dieu de toute sagesse. Et j'espère que lorsque vous vous préparez pour venir au lieu du rassemblement du peuple de Dieu le dimanche matin, que vous avez ce temps de préparation, seul à seul, avec Dieu, en préparant nos cœurs pour ce moment de rencontre avec lui et les uns avec les autres, dans cette communion d'amour. Donc le cœur tourné vers Dieu. Il pratique la prière dépendante, mais aussi une planification délibérée. C'est bon à entendre, n'est-ce pas ? Dieu ne nous demande pas seulement de prier, de croiser les bras et attendre. Il y a aussi l'action qui l'accompagne. Alors certains pensent que tout ce qu'il faut faire, c'est prier et attendre. D'autres se focalisent exclusivement sur la planification, la stratégie, les objectifs. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qu'il faut mettre en mouvement. Dieu nous appelle à prier et avec la sagesse qu'il nous donne de planifier, d'adorer, mais aussi de s'activer. Verset 5, je répondis au roi. S'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Le texte biblique ne nous donne pas cette durée. Mais notons en passant que Néhémie sait comment répondre à la question du roi. Et il anticipe même la question relative au calendrier, le temps que cela prendra, ainsi que la nécessité d'avoir des sauf-conduits pour assurer sa protection. Mais il ne s'arrête pas là. Il demande tout ce qui sera nécessaire pour accomplir la tâche. En fait, il demande 3 choses, et le roi lui donne. Il demande la permission, il demande la protection, et il demande la provision. Verset 7, s'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve. Et c'est ça la force et la puissance, le mobile du service. C'est de savoir, nous sommes appelés, mais nous sommes aussi envoyés. Deuxième chose, la protection, afin qu'il me laisse passer jusqu'à mon arrivée en Juda. On voit donc cette témérité face à l'opposition et ce savoir soutenu et protégé. Et finalement, la provision et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois deux charpentes pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. » Donc la certitude et la foi dans le service, c'est de posséder les ressources spirituelles adéquates. Et c'est ce que Dieu pourvoit pour nous. Il nous envoie, il nous soutient, il nous protège et il nous donne les ressources adéquates pour ce qui doit se mettre en œuvre. Donc patience, confiance, intercession, planification. Et le cinquième outil qu'il emploie, c'est celui du témoignage. Parce qu'il rend témoignage de la bienveillance de Dieu à son égard, par son exaucement, par la sagesse qu'il donne pour formuler ses requêtes. Et Dieu pourvoit tout cela à travers le biais d'un roi impie. Verset 8, « Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Dieu seul peut changer le cours des choses dans nos vies. Nous aimerions bien que ça change tout de suite, mais Dieu a un plan. La pensée du roi et la destinée de son échanson, Dieu les a changés complètement. Verset 9, « Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Néhémie était conscient que ceux qui se mettaient en route, qui se tramaient, venaient de la main de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu, pas le résultat de la pensée de l'homme. C'est ce que le psaume 118, 23 déclare, « C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. » Et je crois que c'est un témoignage que beaucoup d'entre nous peuvent rendre de ce que Dieu a fait dans nos vies et notre service pour lui. Parfois, c'est miraculeux. Mais nous servons un Dieu de miracles. Néhémie était méticuleux dans sa planification, mais cela n'aurait pas suffi sans le timing parfait de Dieu, sans la direction de Dieu, sans la provision de Dieu. Suivre la vision donnée par Dieu, faire ce qui est bien à ses yeux, accomplir ce qu'il attend de nous, cela provoque de l'inquiétude dans le camp de l'ennemi. Nous dérangeons. Et si nous sommes déterminés à obéir à la mission qui nous est confiée en tant que disciples de Christ, à rechercher la gloire de Dieu dans nos vies, et se faisant détruire l'emprise de l'ennemi sur les âmes, eh bien l'opposition, par tous les moyens, va se manifester. Verset 10, nous dit Sanballat, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Néhémie était non seulement quelqu'un qui planifiait, mais un ouvrier hors pair, un maître d'œuvre aussi par excellence. Et il va s'atteler à 5 tâches, en utilisant déjà les outils que Dieu lui a donnés, s'atteler à 5 tâches dans sa vie de service pour Dieu. Alors la première chose, c'est qu'il examine la situation, mais avant, il va recharger les batteries. Première tâche, ressourcement. Verset 11, « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. » Alors vous imaginez, moi j'aurais été à sa place, je me serais précipité sur le chantier qui devait être entrepris. Mais il voyait bien les ruines et cela devait le bouleverser. Mais avant d'aller examiner la situation de plus près, il prend le temps pour reprendre des forces, se reposer. Vous imaginez, hein, 4 mois à dos de chameau, ça doit laisser quelques traces quand même, tout au moins des courbatures. Et ce principe biblique, que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique, est le suivant: ne pas tenter de prendre de grandes décisions quand on est fatigué. Qu'en pensez-vous? C'est sage. Non, il faut être d'aplomb. Il faut être prêt. Et si on est fatigué, la pensée, elle est fatiguée aussi. Mais après avoir rechargé ses batteries, c'est là que Néhémie lance son investigation. Il va évaluer les besoins. D'abord se ressourcer, puis ensuite évaluer. Verset 12, « Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Vous imaginez bien, il ne voulait pas que les gens qui voulaient s'opposer puissent avoir vent de cela. « Il n'y avait qu'avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem, qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montai de nuit par le ravin et j'inspectai la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Dieu lui accorde cette sagesse pour avoir conscience que pour bien mener ce projet, il doit lui-même avoir une juste appréciation personnelle de ce qui doit être fait. Et sa tournée nocturne est assez dramatique parce que il découvre au moins trois choses. Il trouve un ouvrage exigeant. Vous imaginez, 1,6 km de muraille, 1,50 m d'épaisseur et de 6 à 5 mètres de hauteur. Tout ça à reconstruire. Cela ne sera pas facile. Mais Néhémie savait que le peuple prendrait à cœur ce travail. Et au chapitre 4, verset 6, effectivement, le peuple prit à cœur ce travail, dit le texte. Et il en est de même pour nous. L'œuvre pour le Seigneur, l'œuvre dans le royaume de Dieu, est une œuvre exigeante, mais elle mérite tous nos efforts. Tous nos efforts. C'est aussi une tâche hasardeuse. Néhémie a fait sa tournée de nuit à cause des ennemis, tapis dans l'ombre. Il n'a rien dit avant que le temps ne s'y prête, parce qu'une fuite d'informations aurait pu stopper net l'action envisagée, avant même que ça ne commence. Puis il prend conscience aussi que ceci est une entreprise coopérative. Et c'est l'examen des murailles qui ont permis à Néhémie de calculer de quelle manière l'œuvre devrait être entreprise par l'ensemble de ceux qui allaient travailler, des ouvriers, sur les murailles. Ensuite, il a communiqué la vision. Il passe maintenant au recrutement. Les partenaires sont réunis. Et notez bien comment il constitue son équipe. D'abord, verset 17, il relance le défi. Je leur dis tout à l'heure, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Donc d'abord, il s'identifie avec les ouvriers. Il dit, vous voyez où nous en sommes? Il est passionnément concerné du bien-être des habitants de la ville. et au point où il en parle comme s'il avait habité au sein de cette désolation toute sa vie. Mais il présente les perspectives bibliques. Vous voyez le malheur où nous sommes, le déshonneur, la disgrâce spirituelle, les brèches dans la muraille et les portes consumées par le feu ont conduit les peuples avoisinants pendant des décennies à dire et croire « Dieu a abandonné son peuple, voyez ce qu'il en reste ». Il reconnaît qu'il y a un enjeu spirituel. Parce que l'enjeu, l'ouvrage devant eux, c'est bien plus que des pierres et du mortier. Il reconnaît qu'il y a un enjeu spirituel. Et en tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons être, nous, conscients des opportunités spirituelles et les défis qui se présentent à nous. Alors, c'est vrai que des fois, on aimerait qu'il y ait un peu moins de difficultés, un peu moins de défis, mais s'il y a un défi, c'est à nous de le relever, c'est à nous de nous y atteler et de nous présenter à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ensuite, il les exhorte. Donc, il les incite à passer à l'action immédiatement, sans plus tarder. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Quand on est ambitieux pour le Seigneur, on est exigeant envers soi, mais aussi envers les autres. Les sacrifices à consentir sont énormes ici. Et il faudra que chacun consente à sacrifier des choses pour se mettre à l'œuvre pour Dieu. Nous avons peut-être des sacrifices à faire dans plusieurs domaines. Alors, il faut consentir à servir Dieu, même peut-être profiter des congés payés pour faire quelque chose dans l'évangélisation et le témoignage, par exemple. Mais aussi assurer la protection des familles. Et c'est ce que Néhémie avait en vue. Et avant que le peuple ne puisse répondre, il doit savoir une chose importante, que derrière ce projet, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que Néhémie. Et il veut les aider à focaliser leur attention sur Dieu, inspirer la confiance du peuple. Et c'est la quatrième tâche du serviteur, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il les rassure que Dieu est dans cette affaire, il est dans ce projet. Et bien que la reconstruction des murailles de Jérusalem soit une tâche importante, le thème de tout le livre de Néhémie est celui de la souveraineté de Dieu et la toute suffisance de Dieu. Le Tout-Puissant et le Dieu providentiel. Et en expliquant au peuple ce que Dieu avait fait et déjà accompli, il les prépare pour ce que Dieu va accomplir. Donc son appel est positif, parce qu'il se focalise sur la grandeur de Dieu. Pas la grandeur de la tâche, parce qu'elle est grande, mais la grandeur de Dieu. Et la réponse du peuple est surprenante. Qu'est-ce qu'ils disent ? Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Est-ce là la résolution de ton cœur devant le défi qui se présente à toi d'accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée? Vous serez mes disciples, mes témoins. Ce que Dieu veut, c'est de voir la multiplication des disciples et de ce fait, la multiplication des églises. Mais en se focalisant sur l'action de Dieu, il faut aussi prendre en compte l'opposition. et c'est la cinquième tâche, qui vient immédiatement après la décision du peuple de se mettre à l'ouvrage. Néhémie doit désormais gérer et résister à l'opposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que le peuple de Dieu dit « Levons-nous et bâtissons », l'ennemi dit « Je me lèverai et j'opposerai ». Oui, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et la parole de Dieu décrit pour nous cette guerre. Et elle s'opère surtout dans la pensée. Si vous lisez Éphésiens 6, toutes les armes spirituelles, c'est vraiment revêtu dans la pensée même de l'enfant de Dieu. Et en fait, c'est Christ que nous revêtons. Il est lui la vérité, il est lui notre bouclier. Il est la source de notre force. Donc au verset 10, les ennemis ont mal pris le fait que quelqu'un soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Donc, ils vont déployer leur première arme, qui est la moquerie et le mépris. Les attaques verbales ont toujours fait partie de la stratégie de Satan pour démoraliser les troupes. Ensuite, ils ont recours au mensonge. Verset 19. Sanballat le Horonite, Tobia le serviteur ammonite, et Geshem l'Arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent « Que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et cette fausse accusation, nous en sommes souvent ceux qui les reçoivent de la part d'autres dans notre vie. Les fausses accusations ne manqueront pas dans la vie d'un enfant de Dieu pour décourager, pour détourner de la tâche que Dieu confie. Mais la réponse de Néhémie, elle est instructive pour nous, pleine d'autorité, pleine de courage, de fermeté, de détermination. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 20 ? Il exhorte tout simplement celui qui l'a appelé à cela. Je leur fais cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Donc, Néhémie ne se soucie même pas des fausses accusations, leurs mensonges, il ne répond même pas à leurs insinuations. Son seul souci, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Et à Dieu seul. Mais il ajoute, mais vous, donc ceux qui s'opposaient à lui, vous n'avez ni pain, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il a dit, vous n'êtes ni habilité, ni reconnu, ni mandaté par le roi, et encore moins par l'Éternel. C'est la tâche qui nous est confiée à nous, et nous l'assumerons seuls. Pas de compromis, pas d'alliance avec les opposants. Et c'est le même principe de séparation qui doit caractériser le peuple de Dieu. En Esdras, chapitre 4, verset 3, Esdras répond à ceux qui s'opposaient, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls. » à l'Éternel. Et en effet, qu'il s'agisse d'édifier le temple ou de réparer les murailles, remplacer les portes du témoignage et du salut, le principe ne change pas. Nous ne pouvons d'aucune manière nous associer au monde pour faire l'œuvre de Dieu, sous quelque forme que cela se présente. Et Romains 12, 2 est explicite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas les mœurs du jour venir vous corrompre. Mais laissez-vous transformer, et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, par le renouvellement de votre pensée, votre intelligence. Ainsi, nous voyons dans ce passage de Néhémie 2 les aspects d'un joyeux service efficace pour Dieu. Et c'est un ministère particulier auquel il nous appelle chacun. Il a quelque chose pour chacun d'entre nous. Mais cela exige une préparation spirituelle avant de pouvoir assumer les tâches et les responsabilités que Dieu désire nous confier. Alors, mettre ces principes en application dans nos vies, en accepter les responsabilités que Dieu nous confie, ne signifie pas que les hommes seront satisfaits de nous. Au contraire. Mais quelle joie profonde de recevoir l'approbation de Dieu sur nos vies, dans notre service pour lui. Alors souvenez-vous des outils que Dieu nous donne. Patience, confiance, intercession, planification et témoignage. Et les tâches, ressourcement, investigation, communiquer la vision, recruter, redonner confiance et résister à l'opposition. Pour finir ce matin, ce livre de Néhémie contient plusieurs déclarations qui inspirent et qui révèlent la force et le fondement de la confiance de Néhémie et de ses collaborateurs, ce peuple engagé avec lui dans l'œuvre de Dieu. Des déclarations qui révèlent d'abord leur état d'esprit, leur motivation, leur unité et leur joie dans le service de Dieu. Chapitre 2, verset 8, « La bonne main de mon Dieu était sur moi. » Verset 18, « Levons-nous et bâtissons. » Verset 20, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Chapitre 4, verset 6, « Le peuple prit à cœur ce travail. » Chapitre 4, verset 20, « Notre Dieu combattra pour nous. » Chapitre 6, verset 9, « Ô Dieu, fortifie-moi. » Chapitre 6, verset 16, « L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » C'était l'achèvement de la reconstruction de la muraille. Et finalement, Néhémie 8, 10, que nous connaissons bien, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Ton cœur est-il dans la joie devant lui? Eh bien, il te rend fort. C'est sa force et sa puissance. Notre grand Dieu nous appelle à nous engager dans l'œuvre que lui accomplit et nous, simplement, nous sommes ouvriers avec lui. Matthieu 28, 19 est clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et cet appel consiste d'abord à saisir la vision, de prendre à cœur l'œuvre, à accomplir et ensuite de nous mettre à l'ouvrage dans notre service spirituel et tout cela pour l'honneur et la gloire de son nom. Et c'est un travail d'équipe, puisque le Seigneur lui-même atteste et promet « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter cantique que Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir ?